Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver pour une autre belle émission de Mission Vision. Et aujourd'hui, je me gâte. J'invite Pierre Brisebois, qui est un ami avant tout, mais c'est aussi lui qui m'a ouvert les portes de la radio à CKVL jadis, il y a plusieurs années. Et là, aujourd'hui, on va l'avoir en studio avec nous et je vais pouvoir parler avec lui de plein de choses. On va parler évidemment de où il en est rendu, qu'est-ce qui se passe pour lui. On va parler de l'handicap visuel, de la dégénérescence maculaire. Et un petit peu plus tard, on va aller rejoindre Annie Perrault, qui est psychologue, qui va amener un sujet vraiment pertinent, qui est le lien social, l'importance des relations. Et comme Pierre, c'est un ami, j'ai demandé de rester pour cette belle discussion qu'on va avoir à trois, tout de suite après. Mais tout d'abord, j'accueille Pierre. Allô, Pierre!
Allô, Julie!
Je suis super contente!
Mais moi aussi, il fait longtemps. On se parle au téléphone, mais oui. De vive voix, ça allait faire une couple de mois, certains. Oui.
Oui, et surtout au micro comme ça.
Alors oui, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Ouais. Parce que comme j'ai dit au début, oui, on est amis parce qu'on a été amis avant qu'on se découvre à la radio. Mm-hmm. Et c'est toi qui m'as ouvert vraiment la porte. Là, tu as dit, est-ce que ça tente de venir remplacer? Ben oui. Au début, c'était vraiment un remplacement. Mm-hmm. C'était avec toi, c'était une co-animation. Pendant deux semaines, on s'amusait, on remplaçait Charlie Rousseau. Et là, tout d'un coup, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça.
T'as eu la piqûre.
J'ai eu vraiment la piqûre. Et là, tranquillement, tu m'invitais une fois de temps en temps à venir faire un petit topo jusqu'à temps que tu me dises, moi, j'aimerais ça que tu ailles une émission.
Absolument.
Donc, c'est toi qui m'as vraiment
ouvert. Oui, mais tu avais les qualificatifs première dans le fond, pour pouvoir animer une émission.
Oui.
Et curieuse, bonne question, une bonne diction, bien posée. Donc, tu avais vraiment tous les archétypes, mais les qualificatifs vraiment essentiels pour faire de la radio.
Et tu les as vus.
Et je les ai vus,
Tu les as vus et tu m'as dit, est-ce que ça te tente? Et j'ai commencé, en plus, tu m'as pas donné un petit contrat, là. Je me suis retrouvée avec une quotidienne 2 heures par jour en direct parce que tu m'avais dit, moi, je veux que tu fasses du direct. Ouais. Et là, j'ai tout fait, là. J'ai appris la technique, c'est moi qui faisais tout.
C'est vrai,
là.
Ouais,
c'est vraiment mon chef d'orchestre. Mm-hmm. Je faisais mon émission, mes chansons, je faisais la console, tout, avec un handicap visuel.
Oui. Mais on t'avait adapté, je me souviens, parce que les collègues disaient, mais pourquoi t'as mis un grand écran comme ça? Puis c'est parce que c'est important, parce que Julie, là, elle a un problème de vision, puis vous savez, moi-même, j'ai un problème de vision. Donc, déjà, là, j'avais adapté un moniteur plus grand, mais avec toi, on a mis ça beaucoup plus grand, et puis bon, on a modifié le studio, donc c'était super pour tout le monde, en bout de ligne, parce que ceux qui avaient une bonne vision, mais étaient obligés de forcer les yeux, c'était merveilleux, un gros écran devant les yeux.
Bien, exactement, et c'est comme si, pour la première fois de ma vie, mon handicap visuel, n'était pas un problème. Tu sais, c'est comme si là, on m'ouvrait les portes de dire, OK, t'as un handicap visuel, on va adapter et non, mon Dieu, ça va être difficile d'adapter comme ce que j'avais tout le temps vécu avant.
Absolument.
Alors là, c'est pour ça aussi que je me suis dit, c'est possible. Alors, je peux être en train de faire mon émission, regarder mon écran, en même temps jouer avec les pitons de la console.
Quand on choisit de faire ce métier-là, comme je te disais à l'époque aussi, à l'époque, c'est pas si longtemps, mais ça fait quand même plusieurs années, mais c'est de comprendre tout le système. Parce que lorsque les postes affichés sont tellement rares, que si quelqu'un étudie simplement la communication, c'est-à-dire le parler, l'animation, s'il n'y a pas rien dans son curriculum vitae qui fait en sorte qu'il montre de la technique, il ne sera pas retenu. Alors, comme toi, je te disais, il faut t'apprendre la caméra, il faut t'apprendre la technique, et tu as tout appris vraiment, ça a très, très bien été.
Oui, vraiment. Et j'ai vraiment tout appris et j'ai vraiment aimé ça aussi. Mm-hmm. J'ai vraiment aimé pouvoir piloter complètement mon émission. Et ce que j'ai aimé aussi, parce que ça aussi, c'était une première, tu m'as dit, parfait, 2 heures en direct, go. Tu veux faire quoi?
Ouais.
Et là, c'est carte blanche.
Absolument.
Tu crées ce que tu veux.
Ouais.
Alors là, tu te retrouves vraiment avec une page blanche. OK, et là, c'est une émission de radio là, que je vais créer. Là. C'est quand même pas rien. Mm-hmm. Et là, je sentais toute la confiance.
Absolument, oui.
Et à partir de là, je me suis dit, OK, go, j'y vais.
Ouais.
Et j'ai tellement aimé ça.
Oui, on n'était pas loin. On avait une, moi, j'étais dans mon bureau toujours à l'écouter. Donc, s'il y avait quelque chose, j'intervenais au niveau de la pause.
Exact.
Et on coachait comme ça et tu t'en es bien sorti. Alors, mais comme je te dis, tu avais déjà les qualificatifs en partant, les qualités d'être animatrice, d'être bonne communicatrice et de l'écoute aussi, qui est important.
Oh mon Dieu, l'écoute. Je pense que ça, c'est vraiment ma plus grande force.
Absolument. Je balaye beaucoup les yeux parce que ton mur en arrière, c'est des lignes et des lignes.
Fait que ça te joue au niveau
écoute,
de...
Donc, sois pas surpris si je te regarde, je te regarde pas, parce que je dois juste... Aussitôt que je prends quelques minutes, là, je me concentre vraiment sur ton visage, mais t'as l'air vraiment une personne comme en 8 dimensions, là,
ah,
et
oui,
ça ondule énormément en arrière, mais c'est correct. Alors, c'est pas les murs pour le DMA.
Non, mais c'est ça. Mais justement, parce que quand on s'est rencontrés, toi et moi, c'était à travers la DMLA. Moi, je ne savais même pas que tu étais directeur de la radio.
Non, c'est vrai, je ne l'avais pas dit.
Pas du tout.
On s'est rencontrés plusieurs fois, puis je ne l'avais rien dit.
C'est
pas
tout d'un
de ça.
Coup que tu m'as dit ça. Hey, est-ce que tu savais que j'étais directeur de la radio? Je vais hein? Non, on ne savait pas du tout. Et ça a commencé que moi, je voulais m'impliquer au niveau de la DMLA. Je me suis dit, ah tiens, est-ce que je pourrais faire des actions bénévoles? Y a-tu quelque chose? Et je me rappelle que c'est là que tu m'avais parlé de la course. La course, et là, j'avais été.
Le défi DMLA.
Le défi DMLA. Et là, c'était la première fois que je faisais quelque chose en lien avec la dégénérescence maculaire. Et c'est là qu'on... finalement, on a comme développé notre amitié à travers tout ça. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que, on avait la DMLA, mais pas du tout...
Au même niveau.
Au même niveau, pas du tout la même chose. Parce que toi, t'as vraiment... La DMLA. Toi, tu as vraiment typique DMLA. Moi, j'ai typique plein d'autres affaires et la DMLA, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même vision. Mais toi, tu es vraiment... C'est pour ça que quand tu dis ça ondule, parce que toi, tu n'as pas les atteintes que j'ai au niveau de la myopie, au niveau que moi, j'ai tellement peu de vision que comme j'ai pas le focus qui est bien... Moi, des fois, ça va même pas onduler parce que c'est tout brouillé.
Oui, je comprends.
Donc, tant que c'est brouillé, ma vision, elle voit pas croche. Mais toi, tu as vraiment une vision. Moi, ça, à chaque fois, je suis un peu en état de choc de ta vision.
Oui.
Peux-tu nous en dire un peu plus?
Bien, écoute, c'est-à-dire qu'au niveau de l'œil gauche, j'ai un peu, pas un peu, j'ai l'atrophie géographique qu'on appelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la forme avancée de la DMLA sèche. Tu dois comprendre que quand on a, tu le comprends, c'est un exemple, quand on a la DMLA, normalement, un diagnostic à l'entour de 70 ans.
Oui.
Bon, avec la DMLA sèche rendue, je te dirais, à 85 ans, pas loin de 90 ans, malgré tout ce que les gens peuvent faire pour retarder la maladie, il devient une cécité vraiment là centrale où est-ce qu'on n'est plus en mesure de voir. Certaines personnes, c'est effacé. D'autres, il peut avoir une tache noire. Mais bref, il n'y a plus rien à faire. Bon.
Mais il y a encore tout le temps la vision périphérique.
Oui, c'est ça. Lorsque la périphérique commence à vraiment être endommagée, à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'atrophie géographique parce qu'au niveau de la photo de l'œil, ça fait comme un peu comme des continents, donc on appelait ça géographique. Bon, moi, je l'ai eu à 46 ans. J'ai pas 60 ans.
Très jeune. Moi, j'ai 42, là, ce qui veut dire que ça serait dans 4 ans. Là.
Si on suit mathématiques,
si on suit toi,
c'est ça.
Là, mais
moi, ça fait 16 ans. Ouais, ça fait 16 ans que j'ai la maladie. Donc, le problème qu'il y a, c'est que la maladie, même si je fais tout pour la retarder, est quand même assez avancée. Donc, au niveau de mon œil gauche, qui est mon œil dominant parce que je suis gaucher, j'ai plus de vision centrale. C'est-à-dire que je peux pas être fonctionnel avec mon œil. Mais je vois tout le tour. Mon niveau central, c'est-à-dire que selon le sujet, selon la distance, selon l'éclairage, selon tout, je peux réussir quand même à reconnaître quelqu'un. Mais si je pourrais croiser mon frère dans la rue, si je n'ai pas l'habitude de le voir dans cet environnement-là, à l'intérieur de 20 pieds, je ne le verrais pas. Même les deux yeux ouverts.
OK.
Après ça, s'il est plus loin, c'est bizarre, s'il est plus loin que 20 pieds, je te dirais, je peux le reconnaître indirectement. Je peux dire son visage me dit quelque chose.
OK.
Mais à l'intérieur de 20 pieds, je ne le vois pas. Ça, c'est avec les deux yeux ouverts.
OK.
Si j'utilise simplement mon œil gauche, là, oublie ça, je ne peux reconnaître personne. Je ne suis même pas en mesure de reconnaître même ma conjointe, même mes enfants.
En fait, si tu fermes ton
œil
droit,
c'est ça.
À ce moment-là, c'est même pas possible.
C'est impossible.
Tu reconnais pas personne.
Absolument pas, parce qu'il n'y a plus de vision.
Parce que dans le milieu, c'est quoi?
C'est effacé.
Il n'y a plus rien.
C'est effacé, puis je te dirais tout le tour.
Oui.
Alors, c'est tout distorsionné.
Oui.
Alors, si je regarde quelqu'un, j'ai l'impression de regarder des gens qui ont une tête attelac. Soit les yeux vont sortir vraiment prédominant au maximum, parce que ça m'arrive de regarder de côté comme tout le monde.
Oui.
Mais là, mon nez, bien entendu, cache ma vision de mon œil droit. Donc, ça fait que là, c'est l'œil gauche je vois avec mon œil gauche.
Oui.
Et là, tout le monde est distorsionné. C'est vraiment pas beau, là, je te jure.
Ce qui veut dire que juste ton œil droit, dans le fond, on pourrait dire que c'est un œil.
Oui, mon œil droit que j'ai.
Alors... T'es aveugle avec ton œil gauche, là, dans le fond?
Bien, fonctionnel. C'est-à-dire que je pourrais me débrouiller, là, je me retrouve tout seul dans un endroit, puis mon œil droit n'est pas fonctionnel, pas d'ouvrir une porte, m'en m'a pas de lire, m'en m'a pas de regarder, de voir quelqu'un. Oui, je vais voir ses bras. Si je baisse les yeux, sa tête peut apparaître distorsionnée, mais je ne le verrai pas. Mon œil droit, lui, c'est la forme plus atrophie géographique, c'est-à-dire en haut à gauche et en bas à droite, il n'y a rien, c'est disparu.
Okay.
Donc, si je regarde quelqu'un, mettons, t'es en couple avec, et je rencontre un couple qui est sur la rue.
Deux, un à côté de l'autre.
Un à côté de l'autre et qui sont à ma droite. Je vais les regarder, il y a un qui n'a pas de tête.
Oui.
C'est aussi simple que ça.
OK,
où il n'y aura pas de main.
Ça, j'ai ça. Moi, j'ai ça, par contre. Mais vu que j'ai des bouts de champ de vision que je n'ai plus, alors ça, je sais ce que tu veux dire. Tout d'un coup, il y a un bras personne parle, puis il n'y a pas de bras,
mais tu vois un bout
de main.
Alors, c'est ça. Alors, j'ai un nez quand même assez prédominant. Donc, il faut que je regarde devant moi. Si je regarde à gauche ou à droite, disons que la vision n'est pas bonne. Si je devais perdre un de mes deux yeux demain matin, c'est-à-dire complètement, là, je ne peux pas rien faire, honnêtement. Il faut que je vende, j'ai deux yeux ouverts. Et que les deux yeux ouverts, là, je vois que pas pire.
OK, mais ça veut dire que même si tu as l'œil droit ouvert et l'œil gauche fermé, encore là, c'est pas mieux non plus.
Non, c'est pas
là.
Mieux. Ben alors, titre d'exemple, parce que j'ai mon permis de conduire encore. D'ailleurs, ils viennent me le redonner encore ce matin.
Ben
c'est assez impressionnant. Mais je passe les tests. Mais je te donne un exemple. La conduite automobile.
Mais tu passes les tests, honnêtement. Passes les
tests. Mais je suis responsable. C'est-à-dire que je fais attention. Je passe les tests, c'est-à-dire qu'est-ce que le sac demande pour passer, et j'ai réussi. Mais il faut que j'aie les deux yeux ouverts. Il ne faut pas que je me ferme les yeux.
Non,
alors,
c'est
entre toi et moi, des fois, j'attends la lumière et je fais des tests de vision, voir avec mes yeux.
Mais oui.
Et lorsque je rouvre l'œil gauche, il n'y en a pas d'auto.
Oh,
à droite,
Seigneur.
À gauche, il n'y en a pas. Mais si je rouvre l'œil droit, les trois premiers autos, si je regarde devant moi, n'apparaissent pas dans ma vision. Tu vois-tu? Donc, c'est pour
mais il faut
te dire.
Que tu bouges la tête.
Mais les deux yeux ouverts, je suis correct.
Les deux yeux, OK.
Ouais, mais si je devais fermer un œil, je ferme un œil, mon œil droit, il n'y a pas d'auto.
OK.
Si je ferme mon œil gauche, je laisse mon œil droit ouvert, les premiers autos, je ne les vois pas. Parce qu'ils sont en haut. À gauche.
OK, ce qui n'est pas sécuritaire.
C'est pas sécuritaire, mais les deux yeux ouverts, je fais vraiment attention. Bon, est-ce que je reconnais tout le monde sur la rue avec les visages en auto? Non.
Non.
Mais je sais qu'il y a un véhicule devant moi, je sais s'il y a un piéton devant moi, et je suis une personne ultra responsable. Donc, je prends beaucoup plus souvent le transport en commun que mon véhicule, que mon auto, tout simplement.
Oui, absolument.
Alors, il faut que les meilleures conditions soient là, et là, je vais prendre mon auto.
Oui, c'est ça. Ouais, mais encore là, au niveau de ton permis, tu pourrais l'avoir eu, puis que tu as fait. A, B, C, A, tu sais, que tu es allé au hasard aussi.
Je comprends.
Non, mais moi, j'avais déjà fait un test quand j'étais... Moi, j'ai jamais pu conduire de voiture.
Oui.
Mais il y a un moment donné où est-ce qu'ils m'ont dit « Ah, peut-être que tu pourrais conduire un scooter. »
Ah, OK.
Et j'avais été passer le test et je l'avais eu, mais j'avais dit à la fille que j'avais dit n'importe quoi.
Ah, OK. Non, mais là, c'est un professionnel. C'est-à-dire que c'est l'ophtalmologiste ou l'optométriste qui passe ces tests-là.
Ah, OK.
Et c'est un test de vision avec une caméra, champ périphérique.
Est-ce que je vois le petit point en haut à droite? Puis là, je le vois pas. Fait que je suis allée... pour ça, je dis A, B, C. Je vais de bord. Ça doit être A, celui-là, D. Puis là, finalement, j'ai reçu mon papier que je l'avais eu. J'ai dit complètement ridicule.
Non, tu es plus profond que ça. T'inquiète, c'est pas moi qui décide.
OK.
Je suis pas bon menteur, donc j'aurais bien de la misère.
OK,
c'est sûr que j'y serais, là.
OK,
non, mais les critères de la Société d'assurance automobile du Québec pour conduire sont quand même très, très larges.
Ah,
moi, je suis assez impressionné. Je me dis, une chance, je suis responsable, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue. Je me dis, bon, on n'est pas supposé de conduire non plus, mais on en voit des gens là, qui se font arrêter dans le temps des fêtes avec les nez rouges de ce monde qui n'appellent pas. Ou des intoxiqués, ça sent la drogue en auto. Alors, je me dis, s'il y avait en plus ma vision, c'est sûr qu'ils sont dangereux.
C'est fini, là.
Mais, et tu sais, moi, je le dis parce que c'est important de le partager. Pas le fait que j'ai des ancêtres écossais, mais du côté paternel, j'ai des ancêtres écossais, donc j'ai l'archétype de la paupière tombante. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que dans la plupart, tout ce qui est pays de ces secteurs-là, même au niveau des Vikings indirectement, on a la paupière tombante.
Okay.
Donc, en vieillissant, notre œil se ferme davantage.
Ah oui!
Alors là, c'est l'ophtalmologiste aperçu de ça, parce que vu que mon œil gauche qui est prédominant, je ne vois pas au niveau central. Il arrive un temps dans la journée où est-ce que tu es plus fatigué et que ton œil va fermer.
Ouais, je comprends.
Donc, tu n'as pas la 100% de ta visibilité.
Oui.
Donc, l'ophtalmologiste m'expliquait, bien, donc, est-ce que ça se peut-tu que tu perdes la vision à un certain moment donné? Parce que des fois, j'ai l'impression que là, tout le monde n'a plus de tête ou tout le monde est distorsionné. C'est que mon œil a fermé tranquillement, mais je ne m'en suis pas rendu compte parce que je suis fatigué, parce que toutes sortes de conditions, surtout en fin de journée.
Oui.
Donc là, il existe une opération qu'ils vont me faire, pour m'enlever la paupière, que normalement, c'est ça fonctionne au niveau esthétique. C'est-à-dire que normalement, c'est ceux les paupières tombantes se font opérer pour l'esthétiste, tout simplement. Tandis que moi, ben là, donc, c'est pas couvert par la régie. La régie
de l'assurance.
La RAMQ, mais j'ai cherché à dire les mots exacts.
Oui, c'est ça.
Régie de l'assurance de maladie du Québec.
Alors
là, ils ont autorisé parce que, dans mon cas, moi, c'est automatiquement que ma paupière se ferme.
Oui.
Puis, vu que je suis vieillissant, ma paupière tombe davantage, elle vient automatiquement nuire à ma vision. Et là, je serais dangereux, bien entendu.
Ben oui.
Alors, je serais automatiquement considéré aveugle. Donc, c'est basse vision. Tandis que là, au moins, ils vont opérer, ils vont m'enlever cette paupière-là. Non, je suis en attente d'une opération.
Ils vont pas t'enlever la paupière. Ils vont
Une partie de la paupière qui tombante.
Ah oui.
Ils vont serrer le muscle au niveau de l'intérieur de l'œil. Je pensais à toi quand ils m'ont tout dit ça.
Mais oui, hein.
Ils vont me serrer la partie de l'intérieur de l'œil, le muscle, pour éviter que la paupière tombe.
Oui.
Et puis, tout ça, c'est pour maintenir ma vision correcte, tout simplement. Parce qu'étant donné que pour le moment, ma vision droite est. Je vois bien.
Oui.
Bien, elle vient compenser pour la gauche, mais automatiquement qu'elle ferme même un petit peu, l'œil gauche qui est prédominant, tout de suite me montre cette vision-là.
Ah oui.
Et là, les gens n'ont plus de tête, ou ils ont des gros yeux, ou ils ont la mâchoire comme ça.
Ah oui, tout croche, là.
Ouais, c'est pas beau.
Non.
Bref, c'est correct. Mais... C'est mes enfants, je trouve que ça me fait de la difficulté. Quand je regarde, hier au souper, justement, j'ai une de ma grande qui est venue. Alors tout de suite, je me tournais la tête, puis là, je la regardais, j'ai dit, mon Dieu. Là, j'ai dit, écoute, veux-tu te mettre un peu plus loin, s'il te plaît, là, afin que je la voie correctement, tu sais, parce que sinon.
Mais justement, ça, c'est quelque chose, parce que moi, je le vis, là. Moi, à Noël. Les enfants de mon frère, ma sœur, c'est tous des petits garçons, sauf une petite fille, mais elle est un petit peu plus vieille, donc je la mélange pas. Mais les petits garçons, ils ont la même âge à peu près, la même face, les mêmes cheveux. Puis ils étaient tous habillés à peu près en noir, tout en noir. Et là, à un moment donné, là, j'ai senti l'émotion monter parce que là, je me suis rendu compte que je ne savais plus lequel était lequel.
Mm-hmm.
Et là, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, oh mon Dieu, hey, il a 6 ans, il a 6 ans d'âge, rendu à 10 ans. Je connaîtrais pas son visage vieillir.
Je
saurais pas,
mal,
il a l'air de quoi quand il est rendu à 30 ans. Là.
Ouais.
Je pourrais pas. Non. Fait que toi, vu que c'est tes filles, moi, c'est mes neveux, et ça m'a rentré dedans.
Ouais.
Je me dis, toi, avec tes filles, ou même avec ta femme, que tu sais, son visage, veut pas, en vieillissant, son visage se transforme aussi.
Oui, absolument, oui.
Est-ce que des fois, ça te ramasse, tu sais, de dire, hey, le visage des gens.
Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu vois tes proches distorsionnés. Puis eux autres, ils n'ont même pas ils ne peuvent pas imaginer parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vois. Alors, même si tu essaies de le décrire, et je le sais que. Moi, je trouve ça difficile. Je me dis, je ne leur souhaite pas ça du tout. C'est pour ça que je me suis impliqué au niveau de la maladie pour qu'il y ait du changement, tu sais, parce que je veux pas que mes enfants aient ça.
Bien, c'est ça. Mais justement, la différence entre toi et moi, c'est que moi, c'est pas du tout la DMLA traditionnelle qu'on pourrait dire. Là. Moi, c'est vraiment parce que c'est un mélange de plein
causes à effet.
C'est ça. Là, c'est pas la DMLA à proprement parler. Donc, j'ai pas personne dans mon entourage. C'est pas héréditaire. C'est juste moi qui a ça. Mais toi, c'est pas la même chose.
Non, moi, ma grand-mère l'avait, qui est paternelle, qui est décédée à 60 ans. Je ne l'ai pas connue. Mon père est décédé à 46 ans. Les deux sœurs de mon père qui avaient la DMLA sont décédées à moins de 55 ans.
Mmh.
C'est un mauvais mélange génétique qui fait en sorte chez nous que, du côté de mon père, ils sont décédés très jeunes, toute la gang.
Et oui.
Bon, puis il y avait, je pense, une mauvaise alimentation aussi. C'était des...
vivants?
Oui, des bons vivants, oui, mais tu sais, tendance à fêter un petit peu trop. Et trop d'alcool, trop de cigarettes, ça fait que mon père ne buvait pas tant que ça, mais ses frères et sœurs en prenaient toute une solide.
Okay.
Je me souviens des parties de Noël, là,
Les
fêtes traditionnelles, ça swingait.
Et ça le côté, aide pas
Non, ça aide pas pour le DMLA.
Le DMLA.
Alors, et le mauvais bagage génétique de mes deux grands-parents paternels a fait en sorte que, en tout cas, je n'ai jamais su, en bout de ligne, que j'avais la DMLA. J'avais des génétiques de DMLA. Alors, oui. Parce que dans mon cas, moi, c'est génétique, les maladies orphelines. Donc, oui. Y a ceux qui ont la DMLA, normalement, comme je te dis, c'est à 70 ans que ça sort. C'est souvent des antécédents familiaux, mm-hmm. Mais c'est surtout aussi des bagages, des gens qui se sont exposés au soleil trop longtemps, oui. Qui ont fumé, qui ont mangé gras, diabète en bon point, mm-hmm. Et antécédents familiaux, bien entendu, oui. Père, mère, crise de cœur, ACV, tout ça. Alors, c'est vraiment l'archétype, le portrait de les personnes atteintes de la DMLA. Alors, moi, je ne savais pas. Donc, quand on me dit à 46 ans, bien, Pierre, tu as des rosines dans l'œil, je ne sais même pas c'était quoi ce mot-là. Mm-hmm. Donc, tu as un début de DMLA. Inquiète-toi pas avec ça et tout simplement, ça va bien aller. Je veux dire, prends ces multivitamines-là, oui. Ça va bien aller. Jusqu'à oui. deux ans après, j'ai fait une hémorragie dans l'œil, mais je ne m'en suis pas aperçu.
Non.
Donc, vu que je ne m'en suis pas aperçu quand donc j'ai
parce
une cicatrisation.
Parce que tu n'as pas de myopie.
Non.
Ce qui veut dire que toi, tu peux avoir ton œil droit qui va très bien, puis ton œil ouais. gauche, pendant ce temps-là, lui, est en hémorragie, puis il perdait.
Ah ouais, tu sais pas.
Mais comme tu es... Ouais. Tu sais, parce que moi, c'est le contraire. Moi, il y a tellement de myopie que moi, dès qu'il y a un petit changement mm-hmm. de vision, moi, je le vois tout de suite.
Ah ouais.
Mais toi, tu avais l'œil tellement fort.
Ben, oui, puis tant que je ne fermais pas un œil, je ne savais pas que j'avais ça. Puis je l'avais seulement au niveau de mon œil gauche.
Ben oui.
Donc, tu sais, tu ne penses pas à ça. Puis là, deux ans après, ben, je travaillais pour Bell à ce moment-là, mm-hmm. et pour le nommer, là. Mais il y avait une présentation BlackBerry. Et là, je me suis gratté un œil par pur hasard. Tu sais, c'était écrit BlackBerry en gros, noir mm-hmm. sur blanc.
Mm-hmm.
Et le mot a complètement été distorsionné, il a disparu, mm. il apparaissait. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et là, je savais que c'était il y avait quelque chose au niveau de mon œil. Est-ce que oui. je ne savais pas que c'était une hémorragie à ce moment-là que j'avais eu? Donc, j'ai été tout de suite à l'hôpital.
Oui.
Et on m'a dit, mais Pierre, tu as eu une hémorragie dans l'œil. Donc, là, j'ai dit, bien, je vais avoir des injections. J'avais compris deux ans oui. après, pendant les deux ans qu'on m'avait diagnostiqué au préalable, comment ça fonctionnait. Il y avait la sèche, il y avait la humide. Et il me dit, non, il est trop tard parce qu'il y a une cicatrisation. Alors, malheureusement, la partie de ta vision à ce moment-là que tu as perdue,
oui.
bien, tu vas vivre avec le restant de ta vie. Mais cette partie de vision-là, 16 ans après, c'est elle qui était prédominante, qui a pris une partie de ma vision centrale.
Oui.
Et là, c'est ça. Donc là, il y a des nouveaux médicaments. L'ophtalmologiste me suggérait éventuellement des injections
ouais.
Au mois.
Ouais.
Sauf, ça, c'était l'année passée, pour retarder la maladie.
Okay.
Sauf qu'il y a eu des mauvais, comment on dit ça, des résultats qui ont été faits que sur certains gens qui ont utilisé ce médicament-là
ouais.
pour la DMLA sèche. A fait en sorte que le Canada a comme reculé un peu.
Ah oui, OK.
Mais même si le médicament est autorisé, mais certains ophtalmologistes disent, écoute, on va attendre.
Ah oui.
On va attendre tout simplement. On va attendre vraiment en dernier recours si vraiment tu dois perdre ta vision totale centrale. Là, on va
oui.
essayer le
on
médicament.
On va essayer.
Pour le moment, ce médicament-là est plus mis sur les tablettes. Là,
OK.
Voilà.
Mais ça
il y a
veut
une
dire
solution
que,
éventuelle.
Ça veut dire que c'est ça. Toi, à quel moment tu as décidé de t'impliquer avec la Fondation? Parce
ouais.
que justement, tu le sais que... Toi, c'est génétique,
ouais.
donc tu as quatre
ouais,
filles.
Quatre filles. Puis ça touche plus les femmes que les hommes, en tout cas au Québec, en pourcentage, à peu près 40-60.
Et comme ils n'ont pas 80 ans,
non.
Ben
moi, d'abord,
tu
que...
le sais pas,
ouais.
mais ils sont jeunes.
Oui. J'étais la dernière personne que je pouvais penser que je pouvais avoir cette maladie-là.
Mm.
J'étais un coureur, j'étais un cycliste,
oui,
j'étais un fonctionnel, je bougeais.
Ouais.
Oui, à ce moment-là,
je
buvais, ben, tu sais, j'étais en affaires, donc
ouais.
on buvait du vin, des soupers, tout ça,
tu sais,
la vie. Mais je faisais quand même attention à moi directement,
mm-hmm.
donc j'avais pas vraiment le profil d'avoir cette maladie-là. Quand on m'a diagnostiqué ça, je dis, c'est quoi ça? Ça touche plus les femmes, OK. Donc les deux premières années, comme je te dis, j'allais peut-être aux 6 mois en ophtalmologie, parce qu'ils veulent voir le suivi, la progression de la maladie. Après ça, tu le vois aux ans.
Oui.
Et j'étais assis, c'était au CHUM, dans le temps de la rue Sherbrooke, et, l'ancien hôpital Notre-Dame. Et j'étais assis, puis je voyais plein de gens tout autour de moi, et majoritairement des femmes, et des femmes souvent qui étaient accompagnées de leurs conjoints, tous des aînés. Moi, je fais pas ça pour le kid à ce moment-là, 46 ans. Et je voyais les femmes, l'archétype typique des femmes. Je voyais ma mère, je voyais ma grand-mère indirectement en eux, ma mère maternelle, parce que paternelle, comme je te disais, est décédée, jeune. Donc, qui fouillaient dans leur sacoche, qui donnaient une paparmane au monsieur, qui se prenaient un petit bonbon,
mm-hmm.
qui regardaient l'heure. Puis là, ils disaient, veux-tu aller mettre de l'argent de parcomètre? La femme. Le monsieur partait, puis allait mettre de l'argent de parcomètre. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais.
Puis là, je me suis dit, mais attends une minute, là, ça touche plus les hommes que les femmes. Puis les femmes, absolument personne ne connaît cette maladie-là. Puis de deux, les femmes, malgré qu'ils ont la maladie, maternent encore leur monsieur, puis ont souci du parcomètre, ont souci de ça. Là, je dis, ben, attends, mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'équation. Je me suis dit, c'est pas nécessairement à ces femmes-là de prendre d'aller courir, de faire du bruit, mais à nous autres, plus jeunes, de dire, hey, il y a moyen de faire quelque chose. Puis le fait que c'est une maladie qui touche plus les femmes, ben, ça m'inquiétait au niveau de mes filles.
Oui.
Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose.
Mm.
Et là, j'ai dit au CHUM, écoute, moi, je vais faire le marathon de Montréal le prochain. Y a-tu moyen que je m'implique? Je veux m'impliquer dans la maladie. Oui, il peut faire une levée de fonds, monsieur. Ils m'ont mis même ambassadeur. J'avais ma face sur des gros posters. Là, j'étais content. Pour la DMLA, j'ai récolté avec mes chums, on a un coup de main, presque 4 000 qu'on a remis.
Ouais.
Le marathon de Montréal, à ce moment-là, c'était en 2010. Peut-être que je me trompe des années. Là.
Mm-hmm.
En tout cas, je peux me tromper, mais je pense que c'est 2012.
Non.
En tout cas, bref, oublie les années. Là. Mais tout ça pour te dire, je me suis impliqué. Et là, j'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Après ça, il y avait... Là, il faut que je bouge davantage, mais ça bougeait. Tu sais, moi, tu comprends, quand tu reçois un diagnostic de DMLA, tu es sur le gros nerf, surtout quand tu as perdu une partie de ta vision,
ouais.
Puis tu sais que tes filles, le temps est calculé. Hein?
Oui.
Tu dis, bon, ben. Puis à ce moment-là, je connaissais la maladie, mais je ne connaissais pas comme je la connais aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, on me disait, tu vas devenir aveugle, c'est la première cause de cécité, au lieu de me dire, ben non, tu peux même vivre avec un handicap visuel, c'est juste une question d'adaptation. Mais tu sais, ils ne disent pas ça. Là.
On
dit, le docteur médecin est froid, ophtalmologiste, ben c'est la première cause de cécité, mon Dieu.
Mm-hmm.
Mais inquiète-toi pas avec ça. T'sais, on dit ça.
Oui.
Ça fait que j'ai pu s'impliquer au niveau de la QDM, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je suis devenu le président de la QDM. Mais ça ne bougeait pas encore assez à mon rythme. Je voulais que ça bouge davantage.
Plus.
Moi, je n'étais pas là pour je n'étais pas une association indirectement. Je ne dis pas que c'est le cas de la QDM, là. Mais je n'étais pas là pour faire vivre, me payer un salaire. Le but n'était pas là. Le but était de faire bouger la maladie, faire connaître la maladie à tout le monde. Parce que 9 sur 10, mais j'exagère pas, moi, 95 aînés sur 100, je vais mettre ça plus gros, ne savent pas c'est quoi DMLA.
Mm-hmm, oui.
À ce moment-là, là, peut-être ça a descendu à 90,
ils
ne savent pas c'est quoi DMLA. Donc, t'imagines, tu es un aîné, tu as une maladie qui te touche, qui est la première cause de cécité. Déjà, quand tu deviens aîné, parce que j'ai découvert en côtoyant des aînés ayant la même maladie, beaucoup d'anxiété. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller le lendemain.
Mm-hmm.
Tu ne sais même pas si tu es considéré plus bon dans la société, alors que tu as c'est un bagage incroyable, encyclopédique, énorme. Personne ne t'approche. Ceux qui sont plus en forme que d'autres vont faire du bénévolat dans les hôpitaux, dans les garderies. Ils vont s'impliquer à la bibliothèque.
Oui.
Mais beaucoup d'aînés sont laissés à eux-mêmes alors qu'ils ont un bagage incroyable. Donc, tu es oublié de la société. Tu n'es plus bon à rien dans ta tête. Tu perds la vision tranquillement, pas vite. Tu ne veux pas le dire parce que tu as peur qu'on te prenne et qu'on te mette dans un CHSLD ou dans une place non autonome. Alors, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, ça n'a pas d'allure.
Ouais.
Et c'est là que j'ai lancé la fondation. J'ai lancé le défi DMLA, une course et une marche.
Ouais.
Après ça, j'ai dit, bien, il faut faire quelque chose. Les gens disaient, mais puis on voudrait donner plus, mais on aimerait ça avoir des reçus. Mais je n'avais pas de reçus, moi, je n'ai pas une fondation. Là. Alors là, j'ai écrit au gouvernement du Canada, on a fait la fondation, ça s'appelait Fondation Pierre Brisebois à ce moment-là.
Oui.
Mais Fondation Pierre Brisebois, ça ne dit pas maladie.
C'est devenu
fondation. Tu sais, j'avais dit Guy Lafleur.
C'est tellement intéressant. On va pouvoir poursuivre après la pause. On va accueillir Annie Perrault. On va parler justement du lien, de l'importance des relations. Et après, on va pouvoir poursuivre et voir au niveau du maculaire, la course et tout ce qui s'en vient et qui s'ensuit. Donc, on se retrouve tout de suite après la pause avec Annie Perrault.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Je retrouve Annie Perrault, qui est psychologue. On va parler de l'importance du lien social, des relations. Moi, comme j'aime dire, le filet de sécurité. Allô, Annie.
Bonjour, Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Puis vous, de votre côté?
Ben oui, ça va bien parce que là, comme je disais, on va avoir vraiment une discussion à trois. Donc, Pierre aussi va pouvoir se mêler à la discussion.
Parfait, bonjour, Pierre.
Et comme j'avais dit, dès que tu m'as... Parce qu'en fait, c'est Annie qui m'a proposé ce sujet-là, avant même de savoir que Pierre, mon ami, allait être là. Et c'est là que j'ai dit, ça serait vraiment parfait parce que le sujet, ben, je trouve qu'il est à point. Parce que moi et Pierre, on s'est retrouvés dans une relation où est-ce que un et l'autre, on s'est beaucoup soutenus à différents moments en lien avec l'handicap visuel et tout ce qui s'ensuit, le deuil qui est cyclique, hein, que ça vient, ça repart, c'est plus facile. Des fois, on se dit, mais à quoi ça sert? Bon, tous ces états d'âme-là. Donc, on s'est beaucoup soutenus. Et puis, moi, je trouve que c'est vraiment un beau sujet parce que des fois, on minimise l'importance des relations.
Oui, on peut minimiser l'importance des relations. Puis si en plus on a une tendance à vouloir s'arranger tout seul parce que c'est comme ça qu'on pense que c'est mieux, ben on finit par s'isoler, ce qui n'aide pas nécessairement la cause.
Non.
Alors, oui, à travers votre relation, hein, Julie, Pierre, vous avez peut-être expérimenté du soutien émotionnel à travers le fait de partager une expérience commune qui se ressemble. Hein? Puis c'est souvent un des aspects le plus important d'avoir ce soutien émotionnel quand on est en interaction avec l'autre.
Oui.
On est essentiellement des êtres sociables. On peut pas vivre vraiment tout seul, sinon on meurt. Hein? On vit au monde, puis on doit se faire prendre soin de nous autres. Donc, si on laissait tout ça tomber, on risque vraiment un naufrage de notre personnalité si on essaie de s'arranger toute seule.
Oui, absolument.
Donc, les relations sociales deviennent le support social, le soutien social devient vraiment une arme pour lutter contre la détresse émotionnelle, psychologique. Ça peut nous soutenir à différents niveaux, tant pour, par exemple, avoir accès à des ressources, des informations, avoir du soutien pratique et matériel, surtout lorsqu'on fait face à une situation de handicap ou de difficulté physique. Qui va nous aider à nous orienter dans les ressources, dans les informations? Bien, c'est souvent quelqu'un de notre communauté. Puis d'avoir accès à ce type de support-là est extrêmement important.
Bien, moi, c'est vraiment particulier parce que comme quand j'étais jeune, oui, j'avais un handicap visuel, mais j'avais pas de soutien particulier en lien avec l'handicap visuel. Moi, c'est vraiment arrivé plus tard. Et c'est par moi-même. Tout d'un coup, on dirait que je me suis dit, là, toutes les gens autour de moi voient bien et moi, je vois pas bien. Et là, je sens que j'ai besoin d'aller rencontrer des gens qui vivent la même réalité que moi.
Oui.
Et j'en avais besoin, vraiment. Et je l'ai fait, mais ça m'a pas aidé profondément. Je suis super honnête. Là. J'ai vraiment pas retiré quelque chose de positif à ce type de relation-là, parce que c'était beaucoup de négatif. Moi, je trouvais que ça nivelait beaucoup vers le bas. Et à partir de là, je me suis dit, parce que je sortais de ces rencontres-là, puis j'arrivais chez nous, je me dis, bon, ben, hein, ils sont tous sur le bord de vouloir se suicider. Alors là, moi, tout d'un coup, ça me donne quoi de vivre? Là, moi, ça m'a amené. Moi, personnellement, là, je parle vraiment de moi, Julie. Et à partir de là, je me suis dit, non, j'ai dit, moi mes relations sont primordiales. Oui, le monde voit, mais tant mieux parce qu'on se soutient à travers ça.
Ouais.
Mais quand j'ai rencontré Pierre, c'est là que ça a été différent parce que c'est mon seul... C'est mon seul qui a un handicap visuel dans mon entourage. Tu sais, j'ai pas d'autres relations... Il n'y en a pas d'autres, à part, mettons, avec le travail, là, mais sinon, c'est le seul. Mm-hmm. Et quand on s'est rencontrés, ben j'ai absolument pas ressenti ça, là, cette espèce de lourdeur-là de « Oh mon Dieu, je porte un handicap visuel », même si on s'est rencontrés à travers l'handicap visuel.
Absolument.
Et Pierre, est-ce que tu as eu une expérience semblable à rencontrer des pères qui avaient un handicap ou ça a été une expérience différente?
Non, moi, ça m'a fait du bien parce que je pouvais voir que je n'étais pas tout seul. Alors, tout dépendamment des circonstances qui se disaient, mais dans l'ensemble, moi, c'était au niveau sportif. Donc, ça fait que lorsque j'écoutais ces gens-là parler, mais je me reconnaissais.
Ouais.
Je me disais, je ne suis pas fou, je ne suis pas tout seul à penser ça. Je ne suis pas tout seul à... Alors, dans une conversation même banale, mais souvent, un donnait un exemple de ce qu'il vivait dans son quotidien. Là, je me disais, et je lis aussi la même chose. Alors, je me retrouvais, je me disais, enfin, ça fait du bien d'entendre des gens qui disent la même chose ou qui vivent la même chose que toi, même si ça peut être pas nécessairement la joie de vivre ça. Mais au moins, il y a un certain réconfort là-dedans de comprendre que... Au moins, tu peux partager ce que tu vis à tous les jours. Parce qu'un des problèmes qu'il y a avec la perte de vision, c'est que ça paraît pas. C'est-à-dire que son identité, ça paraît, mais lorsqu'on voit comme à moitié, bien, on nous regarde, ça paraît pas. Donc, mais toi, tu sais que tu vois pas la moitié de ce qui est à voir, où les couleurs sont délavées, ou ainsi de suite. Mais les gens, ils savent pas. Puis c'est comme s'ils n'y croient pas. Mais donc, ça devient difficile, des fois, d'expliquer c'est quoi la maladie, parce qu'on n'a pas l'air... Quelqu'un qui manque un bras, il peut parler de son handicap parce que, bon, c'est physique, on voit qu'il manque un bras, mais quelqu'un qui manque un œil, ça paraît pas nécessairement. Mm-hmm. Et puis, donc, mais rendu là, peut-être les gens vont commencer à croire un peu plus, mais sinon... Et c'est ça qui est difficile à vivre aussi. Alors, quand on rencontre des gens qui ont la même maladie que nous, qui vivent les mêmes choses, les mêmes symptômes, ça fait du bien. C'est un réconfort incroyable. Moi, je me souviens d'un exercice à l'Institut Nazareth Louis Braille qui avait démontré que la tâche que je voyais, elle avait réussi à la démontrer avec des collants. Écoute, c'était comme... j'en revenais, moi, ça faisait comme 6 ans, 10 ans, je disais ça aux gens. Tu sais, ça rentrait dans les oreilles, ça sortait par l'autre, les gens n'écoutaient pas. Alors, s'il avait vu physiquement qu'il me manque 3 doigts, il m'aurait posé la question, pourquoi il me manque 3 doigts?
Oui.
Mais ça paraissait pas dans ma vision.
Non, c'est
Bref, mais c'est réconfortant, c'est ça que je voulais dire.
Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que je l'ai vécu par après. Ouais. Mais je pense aussi que c'est en fonction du type de soutien. Tu sais, je pense que dans les gens qu'on va côtoyer, c'est peut-être pas... Tu sais, moi, probablement que le contexte de groupe, on est ensemble, on ouvre la discussion sur un sujet X, exemple, les relations amoureuses, et là, tout d'un coup, on est plusieurs avec un handicap visuel, et il n'y en a pas un qui est en couple, et c'est juste du négatif qui sort de ça. Mm-hmm. C'est là, moi, je pense que c'est le contexte qui n'était pas positif pour moi.
Oui, c'est possible. Hein?
Ouais.
Parce que d'aller vers une communauté qui va encourager notre autonomie, ou en fait qui va réduire la stigmatisation, qui va promouvoir l'inclusion, va pas apporter le même sentiment que où là on va parler de nos difficultés ad nauseam, comme on dit. Puis là, effectivement, ça nous tire vers le bas. Donc, comment on renforce là, l'estime de soi à travers l'inclusion, à travers le soutien, le support social, il y a quelque chose de soutenant, de libérateur, même dire, OK, je suis pas toute seule. Là. On reconnaît ce que je vis.
Ben oui. Et je pense que dans un contexte, comme Pierre racontait, de sport, je pense que finalement, le sport était comme le lien qui unissait toute cette gang-là.
Ben oui, absolument. C'est un sport pour handicapés visuels. Donc, ben, c'est sûr, tout de suite, là,
c'est ça.
On partage la même passion du sport, mais on partage qu'est-ce que...
Autour.
On comprend
aussi.
Autour. Si on rate la rondelle aussi, si on tombe, il y a une justification.
C'est ça. Pour avoir participé à de la course avec des personnes en situation de handicap, j'ai pas retrouvé la même chose. T'sais, pour moi, là, c'était comme si, on aime tout ça courir, on va tout se challenger différemment, on va comprendre ce que l'autre vit. Oh mon Dieu, j'étais allée courir, puis j'étais pas supposée parce que je vois rien. Bien, on se comprend, on se regarde, puis on fait pas comme, bien voyons, t'es donc bien pas sécuritaire de faire ça. On le sait qu'est-ce que ça apporte quand même, ce petit thrill-là. Donc moi, je pense que le contexte aussi va jouer.
Oui. À travers les activités disponibles, les moments de plaisir ou de détente, mais aussi le fait de bouger en gang, d'avoir un objectif d'activité où tout est inclus, là, autant le corps que l'esprit, puis les émotions, ça fait que les relations deviennent vraiment plus soutenantes à ce moment-là que si on prend un café puis on va se plaindre sur notre sort.
Oui, c'est ça. Mais je pense quand même que les personnes qui sont en situation de handicap visuel, ils se retrouvent parce que je trouve... en fait, pour moi, c'est un handicap que tu perds la vue, donc tranquillement, tu te sens comme un peu éjecté de la société. Parce que n'importe qui, je lui dis, ferme tes yeux. C'est difficile de sentir que tu es en relation avec ton voisin quand tu le vois pas.
Oui.
Je pense qu'il y a quelque chose associé avec l'handicap visuel.
Oui, puis le rire aussi des gens. Tu sais, la semaine passée, je prends souvent le métro, excuse-moi. Mais donc, je me sens, tu sais, à l'heure de pointe, là, ça sort, là, tu sais, là, puis écoute, on devait être 200 dans les marches, je sais pas combien, mais moi, j'ai, malheureusement, même si je m'enligne correctement, et même si j'avais mon étiquette basse vision, là, je ne voyais pas dans le dos, c'est sûr, mais j'ai mal mis le pied, et je suis tombé dans les marches. Je me suis relevé, c'est-à-dire, je suis tombé en pleine face, là, ça m'arrive régulièrement,
mais
donc je me suis relevé correct, mais tout le tour, tu sentais... Ben là, qui disait comme toi, ah, c'est vous correct, monsieur, oui, je suis correct, là. Mais t'entends des rires aussi, ou que tu vas rentrer dans une place, tu vas traîner une chaise. J'exagère, je traîne la chaise, là.
Non, mais
tu
comprends.
Vas donner un coup de pied sur la chaise parce que
oui.
Tu l'as pas vu, la chaise. Donc, des fois, il y en a qui vont dire, ben, tu vis le bonhomme, il s'enfarge, tu vois, il a kické la chaise.
Ou... Oui.
Mais, tu sais, ils savent pas, eux autres. Oui, c'est sûr, j'avais ma canne blanche, j'entends déjà l'institut me dire, mais oui, ta canne blanche.
Mais, c'est sûr.
Mais quand même, quand t'es pas identifié comme moi qui vois encore les deux yeux ouverts, quand même une bonne vision, ça fait mal. Moi, je trouve ça... Je passe par-dessus ça, mais je me dis que c'est triste de voir l'attitude des gens s'ils transposent ça sur toutes les personnes handicapées qui voient qu'ils arrivent... Ah, je sais pas. Ouais.
Mais c'est pour ça que je trouve que la perte de vision, il y a quelque chose où est-ce que tu sens que tu fais plus partie de la société.
Mmh.
Et je trouve qu'il y a un défi avec le lien, avec la relation à l'autre.
Oui, oui, sûrement. Oui. Puis j'ai croisé des gens qui ont des, vous savez, des maladies neurodégénératives, qui vont avoir une démarche particulière. J'ai croisé j'ai travaillé avec les personnes sourdes qui, eux, quand ils peuvent pas capter ce qui se passe, ils peuvent avoir plus de difficultés, puis imaginer plus, tu sais, avoir des tendances un petit peu plus qui vont ressembler à un peu de la paranoïa ou de la méfiance.
Mm-hmm.
Fait que le fait d'avoir effectivement une situation où le regard tourné vers soi est pas tant inclusif ou est plutôt critiqueux, là, ça génère inévitablement. Puis vous pouvez les entendre, il y a des petits rires. Puis là, comment on s'accroche là-dedans? On doit s'accrocher au soutien qu'on va recevoir à travers les formes de stigmatisation, c'est-à-dire, êtes-vous correct, monsieur? Est-ce que je peux vous aider, madame? Donc, de dire, OK, oui, il y a de la place au soutien malgré tout, mais c'est sûr que ça fait des blessures qu'on peut accumuler au fil des expériences relationnelles comme ça qui peuvent être difficiles.
Oui, et quand tu as dit au tout début, là, déjà, il peut avoir une... tu sais, justement, là, je vais m'arranger tout seul, touchez-moi pas. Bien, c'est parce que je trouve que des fois, ce qui arrive aussi, c'est qu'on se ramasse dans des situations où est-ce qu'on veut tellement pas être un poids pour l'autre. T'sais, on veut pas être un poids pour les gens autour de nous. Fait comme, ben non, là, tout d'un coup, je veux pas devenir une charge. Fait que je suis capable de m'arranger tout seul. Puis là, des fois, on tombe dans l'autre extrême où est-ce qu'on peut, tu sais, couper des liens en lien avec le fait de, non, c'est beau, je suis capable, je vais m'arranger.
Pour éviter les blessures aussi.
Oui, bien oui.
Le fait de j'ai pas envie de sentir que je suis une charge, puis de me le faire dire, ou de sembler les soupirs. Que bon, OK, ouais, attends, je vais t'aider, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, ou je sais pas trop.
Oui.
Mais effectivement, ça devient un mécanisme de protection, de dire je vais m'arranger tout seul. Mais où est la ligne entre je vais être autonome, puis je vais tomber à m'arranger tout seul?
C'est ça.
C'est ça qu'il faut faire attention.
C'est ça. Puis moi, je trouve qu'il y a une différence entre je suis indépendante et je suis dépendante. Moi, je mets dans le milieu, moi, je suis autonome.
Ouais.
Parce que pour moi, ça, c'est vraiment la différence. Alors là, quand je suis dans mon autonomie, ben je peux aller d'un bord de dire « Non, ça va, je suis correct, je suis capable de traverser la rue ici, ça va. » Et de l'autre bord, je suis capable de dire « Là, j'aurais besoin de toi, s'il te plaît, je peux-tu prendre ton bras? »
Ouais.
Parce que là, je suis autonome. Donc, je suis pas dans « Oh mon Dieu, je suis un poids pour l'autre » et je me retrouve pas dans un orgueil mal placé de « Je vais m'arranger tout seul tout le temps » et être fâché finalement de ça.
Et tu parles de deux besoins fondamentaux. Dès qu'on vit au monde, on a deux besoins. Un, qui est d'être en relation, puis le deuxième, c'est de pouvoir s'affirmer. Mmh. C'est ce qui va nous permettre de survivre.
Oui.
Donc, d'être capable de demander de l'aide, de s'appuyer sur l'autre, mais être aussi capable de dire, ben oui, ça va aller, je vais m'arranger, je vais faire ce que j'ai à faire, et je vais même m'affirmer quand je vais avoir besoin d'aide. Ces deux besoins-là, ils sont, sont fondamentaux à notre survie.
Oui, c'est ça, exactement. Annie, c'est vraiment super intéressant, cette discussion-là. Moi, j'aime tout le temps ça quand on aborde les différents enjeux en lien avec l'handicap, en lien avec l'handicap visuel. Spécifiquement, parce que je trouve quand même que tu amènes une petite touche par rapport à ça. Est-ce que rapidement, tu aurais comme des petits trucs, là, deux, trois petits trucs? Là?
Alors, le soutien social est fondamental pour notre survie.
Mm-hmm.
Il s'agit de bien choisir les personnes. Il y a parfois des personnes qui vont être plus adaptée à certains moments de notre vie, puis d'autres à d'autres moments.
Oui.
C'est toujours en évolution. Alors, d'accepter cette espèce de possibilité-là que aujourd'hui ou dans les 3 prochaines années, je peux m'appuyer sur quelqu'un, puis à un moment donné, ça se peut que ça doit se transformer. Mm-hmm. On est toujours en mouvement. Donc, de faire la place à cette possibilité-là de transformation au niveau des relations, transformation au niveau de notre autonomie, nos besoins, puis de ne pas hésiter à demander de l'aide.
Oui.
Avoir les personnes qui seront là les plus soutenantes.
Oui, absolument. Ben merci, Annie. Pour l'instant, en tout cas, c'était notre dernière chronique parce que là, tu as eu d'autres projets de ton côté qui vont t'accaparer beaucoup, mais c'est sûr qu'on va se retrouver... On va se retrouver une prochaine fois. On avait commencé à CKVL ensemble et ça s'était terminé plus tôt que prévu. Donc, on va se retrouver dans une autre saison à quelque part.
J'avais 203, comme vous
dites. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Annie.
Merci, Julie. Au revoir, Pierre.
Au revoir, merci.
Bye-bye. Et on va poursuivre, évidemment, cette discussion-là avec Pierre tout de suite après la pause, je pense. Je vais poursuivre cette discussion-là avec Pierre, comme j'avais dit, parce que juste avant de parler avec Annie, on parlait de Pierre, la dégénérescence maculaire, et là, tu étais rendu à nous parler de la Fondation, et ça, ouais. Je trouvais ça quand même important parce que j'aime ça voir aussi tout ce que tu fais, ouais. Parce que tu en fais beaucoup. Mm-hmm. C'est sûr que là, il y a eu la pandémie
qui nous a fait mal, oui.
Oui, qui a comme ralenti,
ouais.
Là.
Parce que la plupart, on a environ 100 bénévoles. De ces 100 bénévoles-là, écoute, il y a à peu près 80 Indés. Donc, c'est quand même... on parle avant la pandémie, bien entendu. La pandémie a fait mal aux Indés, on le sait. Bon, on en a perdu parce que dans le Sud-Ouest, c'est là qu'il y a eu plus de décès. Malheureusement, il y a eu au début certains CHSLD qui ont été contaminés.
Oui. Oui.
Et il y a eu beaucoup de décès. Et malheureusement, nous avons perdu certains là-dedans qui étaient de proches. Pas parce qu'ils étaient en CHSLD, mais ils étaient de proches. La maladie s'est transportée vraiment énorme.
Oui.
Et dans le Sud-Ouest, à Montréal, ça a été très, très difficile pour tout le monde. Ça fait que les aînés ont été beaucoup craintifs de vouloir reparticiper. Et nous, étant une fondation privée, on n'a pas de subvention en tant que telle, d'aide. Donc, il faut tout faire de A à Z. On n'a aucune subvention. Alors, l'argent qui rentre dans la fondation pour nos services, bien, c'est tout à partir des levées de fonds qu'on a faites, tout simplement. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, et c'est important de dire, toi, tu n'as aucun salaire. Hein?
Non, j'ai aucun salaire. Tout est bénévole. Il n'y a aucun salaire dans la fondation. Et c'est une petite fondation, mais qui fait beaucoup. Alors, la fondation DMLA... depuis 2020, normalement, on faisait un défi DMLA par année. Là, parce que je vois avec les dates, mais je ne suis pas bon dans les dates. On a fait 2 levées de fonds depuis ce temps-là. Donc là, on revient cette année avec le défi DMLA. On est vraiment plus solide. J'ai passé à travers aussi 2 cancers, un cancer de peau quand même majeur. Et bon, ça fait que, étant donné que c'est moi qui est en arrière de tout, ça fait que ça a été négligé. Là, mais là, je suis beaucoup plus en forme que je l'étais. Et on revient avec le défi DMLA qui va avoir lieu le dimanche 29 juin au parc Angrignon. Alors, une question de visibilité.
Une course et une marche, comme à l'époque.
Comme à l'époque, mais sauf qu'avant, on allait jusqu'au demi-marathon, au 30 km. Maintenant, c'est 5 km, 1 km, 5 km, 10 km.
OK, c'est tout.
Oui, parce que le parc en est plus petit.
Oui.
Puis l'idée, c'est vraiment de participer. Alors, de faire participer les gens le plus possible.
Mais c'est-tu à la même place qu'avant?
Non, avant, c'était à La Salle, sur le bord du fleuve.
Oui.
Et là, on est au parc en Grignon. C'est une question de transport plus rapide, plus simple. OK. Alors, le métro est là directement.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Alors, les levées de fonds se font à partir de là pour les services qu'a la Fondation. Alors, nous, à la Fondation, qu'est-ce qu'on fait de différent? Bien, on donne des lunettes de soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a la dégénérescence maculaire, on ne supporte pas la lumière. La lumière trop forte, la lumière ambiante, le soleil extérieur, on oublie ça. La lumière est 2 fois plus forte dans les véhicules, le taux, tout ça. Donc, il y avait comme un manque. Si on prend l'Institut Nazareth, l'MAB Mackay, la plupart des instituts à Québec, il y a un vide. C'est-à-dire que pour être reconnu basse vision avec la DMLA, il faut vraiment que tu aies 90 ans et que tu ne vois pas vraiment rien.
Ben, ou bien comme moi, puis là, tu as toutes les atteintes.
Oui, c'est ça. Ben, des cas d'exception, mais de sorte générale, avant, parce que c'est une question de budget, c'est une question de prioriser tout simplement ceux qui ont besoin davantage plus. D'aide à domicile pour la vision. Puis ils disent, bien, la DM est là, tu n'es pas totalement dans la noirceur.
Non.
Donc, tu as quand même un résidu visuel quand même assez large, ce qui fait que souvent, bien, ils vont être pris en main pour l'éclairage, ils vont être pris en main pour la sécurité. On va leur montrer peut-être même comment fonctionner avec une canne, mais certains services, comme des lunettes de soleil, ne seront pas donnés. Alors, ces gens-là, souvent, beaucoup les aînés se retrouvent comme ça dans la solitude, dans l'isolement. Alors, nous, au niveau de la Fondation, ben, on donne des lunettes de soleil gratuitement.
Et là, ce on parle des lunettes de soleil, là,
ouais, qui vont par-dessus les lunettes.
Qui vont par-dessus parce que même si c'est des lunettes de soleil que tu achètes aux Jean Coutu, normales.
Ben, tu pourrais les acheter aux Jean Coutu, mais... sauf qu'ils seraient étiquetés une autre marque. Là.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle. Là, je parle des lunettes cute, là, tu sais, des lunettes de soleil, là, mais ce que je veux dire, c'est comme une lunette. Là. Sur le dessus, j'ai pas de protection.
Ah, tu veux des standards, oui, c'est ça. Tandis que ceux-là vont protéger au niveau des rayons UV.
Mais là, ça prend le petit toit que j'appelle au-dessus de la lunette. Là,
pourquoi pas dire un toit, c'est correct.
C'est comme un toit.
Ça couvre, parce qu'un des problèmes majeurs avec la DMLA, c'est les rayons UV.
Mais c'est
alors, si déjà on a peu de vision, on a un champ résiduel limité, bien là, ça va venir protéger. Alors nous, on offre ces lunettes-là gratuitement. Avant la pandémie, on payait la livraison. Maintenant, les gens doivent payer les frais de livraison.
Okay.
Ils sont de 24 $, mais on donne les lunettes quand même.
Oui.
On fait aussi des présentations dans les résidences pour aînés pour expliquer c'est quoi la maladie.
Mm-hmm.
Et on supporte un magazine qui s'appelle Le Maculaire, qui est un magazine sur tout savoir sur la DMLA. C'est un des rares magazines
c'est
en français.
Nouveau.
Bien, ça fait 2-3 ans, disons, que ça lève. Mais là, l'implication est beaucoup plus majeure en ce moment. Où est-ce qu'une nouvelle, on fait les recherches de nouvelles à travers le monde sur les maladies, à partir des moteurs de recherche.
Oui.
On prend les meilleures nouvelles qu'on met. Donc, quelqu'un veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur la maladie, puis on vérifie si la nouvelle est sérieuse ou pas.
Oui.
Et on les met tout simplement, et on met la source, bien entendu. Donc, la revue Le Maculaire est vraiment... un outil essentiel. Si on veut savoir c'est quoi la maladie, qu'est-ce qu'elle touche, qu'est-ce qu'elle touche pas, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut se protéger, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire. On a tout vraiment l'information qui est quasiment mise au quotidien là-dessus. Là.
Mais c'est un peu comme finalement la conférence de sensibilisation que
entre
tu
autres,
fais.
Oui,
c'est juste que là, les informations sont plus spécifiques.
Oui, mais ils sont plus larges aussi.
Plus
il y a des vidéos explicatives.
Oui.
Il y a des podcasts aussi. Donc...
Mais il y a des vidéos que tu fais.
Oui, je fais. Ben, écoute, c'est quasiment moi qui fais tout dans la parce que, comme je te dis, on n'a pas les sous. On ne pourrait pas s'acheter, se payer quelqu'un.
Non.
Donc, on le fait. Je le fais parce que je suis impliqué au niveau de la maladie. Je veux que cette maladie-là soit connue de tout le monde afin que tout le monde sur la rue connaisse un peu comme on sait c'est quoi l'Alzheimer et qu'on sache c'est quoi la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et c'est quoi les conséquences parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Population vieillissante, des jeunes qui ne sont pas aussi en forme que nous on l'était.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élevés nécessairement avec des navets, des carottes, des patates, puis du roast beef, puis des rôtis de porc, puis tout ce qu'on mangeait en famille. Là, ils sont élevés beaucoup plus avec du fast-food ou de l'opposé, là, qui peuvent être très bien nourris. Mais d'ordre général, si tu regardes les grandes chaînes de magasins, de restauration, quand j'étais petit gars, tu avais le restaurant du coin, tu avais un Kentucky, un McDonald's, il fallait que tu marches 5 km. Là, écoute, tu as des Subway au coin de rue. Tu as de l'abondance à plus finir et tu vois vraiment la clientèle-là qui sont vraiment accros là-dessus. Donc, et c'est des jeunes qui sont, je regarde mes filles, qui sont beaucoup plus sédentaires, qu'il faut pas, tu sais, il y a une fierté de faire venir avec un Théo, pas Théo, mais... je dis Théo Taxi, mais c'est pas Théo Taxi.
Uber.
Oui. Donc là, ils vont même pas le chercher, ils se le font livrer.
C'est ça.
Donc, ils cumulent des bagages génétiques assez... encore là, je généralise, je dis pas que toutes les jeunes sont comme ça.
Mais
disons que c'est une génération, je me dis, hey, mon Dieu, la DMLA va frapper, plus c'est sûr, parce que
la population est vieillissante.
Ils disent
d'emblée qu'il va y avoir plus de DMLA. Parce que DMLA, c'est directement lié à l'âge. Hein?
Oui,
dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Oui.
Il n'y a pas tant de maladies qui ont le nom lié à l'âge dedans. Donc, on le sait que plus la population va être vieillissante, plus il va en avoir.
Oui, puis ils vont développer du diabète davantage.
D'autres...
Donc, là, qui ne vient pas aider au niveau de la DMLA.
C'est ça.
Et ici, on a une mentalité... Tu sais, ça fait quand même 14 ans que je porte des lunettes de soleil, que quand je sors à l'extérieur, je mets des lunettes de soleil. Encore des gens, quand je rentre dans des places, ils jouent à star. Ils jouent à vedette, il y a ses lunettes. Mais non, je ne tolère pas la lumière. Mais si tout le monde savait... Est-ce qu'on voit quelqu'un avec un masque aujourd'hui ou avec des Kleenex dans ses poches qui a un rhume? On a dit, gars, s'il y a de l'air, il y a un rhume. Il joue à vedette parce qu'il y a un rhume. Ben non.
Mm-hmm.
Alors, on a une mentalité au Canada. Il n'y a pas juste au Québec, c'est au Canada que c'est comme ça. Ou est-ce qu'on pense que les gens jouent à vedette parce qu'ils ont une lunette de soleil? Au lieu de penser qu'il y a peut-être une maladie de l'œil, ça protège les yeux et tant mieux. Alors que tu vas dans tous les pays Mais même, je vais faire un tour en Californie, il n'y a pas personne qui n'a pas de lunettes de soleil. C'est impensable de sortir dehors, pas de lunettes, parce que le soleil est tellement fort là-bas qu'ils sont déjà programmés ou conditionnés à mettre des lunettes. Alors, il y a tout cet aspect-là ici qu'il faut changer. Tu sais, il y a beaucoup d'ouvrages là, pour sensibiliser les gens, parce qu'il y a une petite gêne de mettre des lunettes de soleil à l'intérieur. Oui. Mais là, tu vois, donc, le problème qu'il y a, ils s'empêchent de sortir. Ils iront pour un restaurant. Moi, je me souviens au travail, avant que je fasse souvent mon coming out, je travaillais pour Vidéotron, une grosse boîte. On avait des 5 à 7 régulièrement. Ben, tu sais, moi, dans les 5 à 7, là, je rentre dans le monde, là. Tu sais, moi, je le vois pas, là. Je sais que la personne à côté de moi, elle peut être bien gentille. Tu sais, je le vois pas. Je peux me tourner puis rentrer dedans, puis tu sais comment que c'est. Tu renverses le verre, tu l'autres tombes, puis tu veux pas ça. À un moment donné, t'as quand même un malaise. On en parlait juste un peu avant avec la psychologue. Mais c'est un ça fait que tu y vas plus.
Non, tu fais de l'évitement.
C'est ça. Après, quand j'ai fait mon coming out, je leur ai dit que j'avais maladie. J'ai pu, ils ont pu comprendre, du moins, moi, que si je rentrais dans eux, là, ça a été un soulagement de savoir qu'ils savent que j'ai une maladie d'œil.
Finalement, qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce que j'ai? Mais bref, tout ça pour dire que donc les gens restent à la maison, ne sortent pas et prétextent toutes sortes d'affaires pour ne pas sortir. Donc, alors que si c'était normal de parler de cette maladie-là, si c'était inclusif, comme on parlait tantôt, que les gens comprennent que c'est une maladie qui touche les aînés, là, on sent, on a mis beaucoup de pression, l'Association des optométristes du Québec, bien entendu, sont de collaboration avec la Fondation des MLA, mais ça implique aussi, c'est-à-dire qu'ils vont faire un prédiagnostic déjà à 50 ans, qu'on n'aura pas vu le 20 ans. Le 20 ans, tu aurais pu voir un optométriste, puis tu n'aurais pas parlé des MLA.
Et c'est à quel endroit, là, on a les informations, le maculaire, on peut s'abonner à
maculaire.ca, l'infolettre.
On va voir dans la Fondation des MLA.
Fondation des MLA, tout simplement.
Tout simplement, et là, on va avoir les informations, même dans le maculaire, au niveau de la course, l'événement, le défi des MLA. On peut s'inscrire. On le sait que c'est pour la Fondation. Il n'y a pas d'argent qui va être caché à quelque part.
Non.
C'est pour donner uniquement à la Fondation pour les personnes qui ont une DMLA. Merci, Pierre. Ça a
été
un plaisir, comme à chaque fois. Eh bien, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre belle émission. Je remercie évidemment mes invités. Annie Perrault qui est venue faire un petit tour tantôt et Mathieu Tessier à la mise en onde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde!